un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un jeune homme engagé qui ne ménage pas ses efforts pour la cause. Ancien enfant placé, ballotté de familles d'accueil en foyer, de violences psychologiques en violences institutionnelles, dès l'âge de 17 ans, il décide de témoigner dans un livre des maltraitances qu'il a subies. Rapidement, il se fait le porte-voix des enfants en détresse, les enfants valises, comme il dit, qu'on pose comme des colis. Il milite, il s'investit, il dénonce les carences de l'institution et ses aberrations, bref, il se démultiplie. Et puis un beau jour, 10 ans plus tard, il arrête tout. Il publie alors une lettre ouverte pour s'expliquer. « Le temps est venu pour moi, dit-il, de faire une pause. Je cesse mes activités militantes. La tentation du silence est née de l'exténuation. Car aujourd'hui, je dois l'avouer, je suis épuisé. » Il souffre de ne pas répondre, je cite, aux milliers de messages d'enfants meurtris, d'anciens enfants placés qui n'ont jamais pu s'exprimer, à qui il donne espoir afin d'être entendu et qui voudraient partager leur expérience avec lui. Il se sent seul, sans doute frustré par la lenteur et tout ce qu'il reste à faire. Il part. Il fait ce qu'on pourrait appeler un burn-out militant, qui est notre sujet du jour. Mathilde et Adèle se sont engagées et elles aussi ont craqué, comme elles le racontent à Timothée Doreau-Claudre.
Je m'appelle Adèle, j'ai 24 ans. Et j'habite en Île-de-France. J'ai été militante féministe pendant à peu près 2 ans à Paris. Et j'ai grandi à Versailles dans une famille catholique traditionnaliste, un milieu assez particulier. Et j'avais une vision du militantisme comme quelque chose de pas convenable, réservé aux marginaux. Tout ce que je voyais du militantisme, c'était des actions un peu choc, comme par exemple les actions des Femmes, que je voyais dans les journaux, puis qui étaient pas mal dénoncées dans notre milieu. Et ma démarche personnelle pour arriver au féminisme, c'est d'abord mon histoire personnelle. J'ai porté plainte pour viol. J'ai vécu beaucoup de violences sexistes au sein de ma famille. Et ça m'a amené en fait à remettre en question beaucoup de choses qu'on m'avait présentées comme immuables avant, la place de la femme, le rôle, les rôles genrés, et surtout en fait après ce que j'avais vécu, je voulais m'engager pour que ça n'arrive plus à d'autres femmes. Je m'étais engagée d'abord au sein de Nous Toutes, et j'étais dans des groupes de discussion liés au collectif. Et c'est comme ça que j'ai répondu à une invitation pour qu'une militante nous explique une technique d'activisme qui s'appelait le collage. C'était à Paris, on avait rendez-vous dans un squat à Denfert, et la personne en question, c'était Marguerite Stern, qui est une ancienne activiste féminine. Et c'est comme ça que j'ai plongé là-dedans. Et les collages, c'était un grand collectif à Paris qui s'est ensuite étendu à d'autres villes en France et dans le monde. On prenait des feuilles de papier A4, on peignait sur chaque feuille une lettre en peinture noire et on allait les coller dans la rue. C'était des messages, au début surtout pour dénoncer les féminicides. On collait le nom d'une femme qui était morte, comment elle était morte. Et on écrivait aussi des messages pour dénoncer les féminicides. Ce qui m'attirait dans ce mode d'action, c'était justement d'apprendre à prendre sa place dans l'espace public, de faire parler les murs et d'imposer les réalités qu'on voulait dénoncer dans la rue, aux yeux de tous, pour parfois aussi lancer un dialogue, lancer des réflexions, lancer des pistes, planter une petite graine en fait dans chaque personne qui voyait nos slogans et peut-être l'amener à remettre en question certaines choses. Aussi pour rendre hommage à toutes les femmes qui sont mortes, toutes les victimes des violences masculines. Le premier soir où ça a commencé, Marguerite nous a expliqué comment coller, ce qui est une technique assez simple. Et ce soir-là, je ne me suis pas sentie prête à partir coller. J'avais un peu peur, en fait. Et quelques temps après, je suis revenue. C'était, je pense, 2 ou 3 jours plus tard. Je suis revenue au squat. Et je me suis lancée pour aller coller. On m'a mis des feuilles dans les mains. Je suis partie avec 2 filles que je ne connaissais pas. Et on est parti coller dans les rues de Paris. On a collé des noms de femmes assassinées. Ça s'est bien passé. On n'a pas eu d'interaction particulièrement négative. Par contre, on a rencontré une femme qui nous a parlé de son vécu. En fait, le collage lui a fait penser aux violences conjugales qu'elle avait elle-même vécues. Et elle nous a raconté ce qu'elle avait vécu et elle nous a remercié pour ce qu'on faisait. Et c'était très gratifiant, en fait. Pour la préparation des actions, on lançait des propositions de slogans, on lançait des propositions de sessions pour aller coller. Et puis, en amont, chacune peignait des slogans ou n'en peignait pas si elle n'avait pas le temps. Et puis, on partait coller. L'avantage de ces actions, c'était que c'était justement très simple à préparer. La fréquence des actions, pour moi, elle a été assez élevée dès le début, parce que j'ai été tout de suite prise par la simplicité en fait de ce moyen d'action et puis par l'atmosphère qu'il y avait dans ces sessions de collage. Et je me suis engagée à fond dans le mouvement et je collais plusieurs fois par semaine. Donc je peignais mes slogans la journée et puis je sortais coller le soir. C'était intense, on avait le saut de colle qui pesait parfois lourd. Et puis surtout, on était en alerte permanente parce que à tout moment, il pouvait y avoir quelqu'un qui s'insurge du fait qu'on touche à son mur. Il pouvait y avoir quelqu'un qui nous attaque sur la teneur de nos messages, qui était gêné par ce qu'on dénonçait. Il pouvait aussi y avoir des interactions qui sont certes positives, mais qui sont lourdes émotionnellement. Les femmes qui nous racontent les violences qu'elles subissent, par exemple. Et cet état d'alerte permanent, en fait, c'est fatigant. Les violences que j'ai vécues, elles ont été un moteur, en fait. J'étais tellement en colère contre l'injustice qui est faite aux femmes et aux minorités de genre en France et dans le monde que j'ai mis mes tripes dans mon engagement. J'y suis allée à fond et j'ai mis aussi un peu de mon histoire dans certains collages. J'ai collé près de chez mon violeur pour lui mettre en fait sous les yeux ce que j'avais vécu. J'avais rencontré dans un groupe de collage une femme qui habitait pas très loin de chez lui. Et je l'ai contactée et spontanément, elle m'a proposé de venir peindre les slogans avec moi, de chercher des amis à elle et d'aller coller tout ensemble. C'était vraiment un très beau moment de solidarité entre femmes. Et on a collé tout ensemble, tout autour de chez lui, voire sur son immeuble même. J'avais peur, mais c'était aussi un moyen de reprendre le pouvoir. J'avais collé, violeur, à ton tour d'avoir peur. J'ai collé certaines parties de mon histoire aussi sur les murs de Paris. Et je m'y suis vraiment beaucoup investie. J'ai collé pour des amis, j'ai collé pour des personnes de mon école d'ingénieurs qui avaient été victimes de violences au sein de l'école. Je suis partie en fait de choses que j'avais vécues ou que mes proches avaient vécues pour dénoncer des phénomènes de société beaucoup plus larges. Émotionnellement, d'un côté, ça m'a donné de la force, parce que ma colère était un moteur. Mais d'un autre côté, c'était aussi très pesant, parce que quand on s'investit à partir de sa propre histoire, surtout quand c'est des épisodes traumatiques, ce serait lourd à porter, parce que ça nous rappelle en fait ce qu'on a vécu. Et ça nous rappelle aussi que d'autres personnes subissent les mêmes choses que nous régulièrement, et que si pour nous ça s'est arrêté, pour d'autres ça continue encore. J'ai été dans 2 groupes de collage, celui de Paris, donc, qui avait un nombre de militantes très important, et qui était organisé donc, via un forum Discord, et dans un autre groupe d'Île-de-France, qui était beaucoup plus petit et beaucoup plus intergénérationnel. Discord, c'est un réseau social qui permet d'avoir des groupes privés avec toute une organisation sous forme de forum. Donc c'est très pratique pour s'organiser quand on est un groupe de plusieurs milliers de militantes sur Paris. Dans le groupe plus petit, l'ambiance était assez sympathique. Et dans le groupe de Paris, l'ambiance était très différente. L'ambiance était plutôt à la défiance, parce qu'il y avait toujours la peur qu'on soit infiltré par les renseignements généraux, la peur aussi qu'on soit infiltré par d'autres de militantes avec lesquelles on était en désaccord. Et tout ça donnait une ambiance assez tendue. En fait, Marguerite Stern, qui a donc créé les collages, a publié une série de tweets très violemment transphobes sur Twitter peu de temps, enfin quelques mois après la création des collages, ce qui a conduit le groupe de collages de Paris à se désolidariser d'elle et de ses positions, et a conduit Marguerite aussi à créer un groupe de collages dissident entre guillemets. Il y avait une espèce de chasse aux traîtres. Est-ce que cette personne est aussi dans un autre groupe de collage dissident ? Est-ce que cette personne lit ce qu'on écrit et renvoie tout après à Marguerite ? Parce que ça s'est passé dans le serveur Discord. Est-ce que ces personnes adhèrent vraiment à nos positions et respectent les règles qu'on a édictées au début en les intégrant ? C'était un peu du flicage permanent, honnêtement. Sur un Discord où il y a à peu près 2000 personnes, je crois, ça fait beaucoup de messages. Et surtout quand il y a une ambiance aussi tendue, c'est beaucoup de messages suspicieux, beaucoup de messages violents. Émotionnellement, c'est pénible, en fait. Comment j'ai fini par arrêter ? Beaucoup de lassitude, en fait. Bon, déjà, la lassitude de pas être écoutée, d'avoir l'impression que les choses bougeaient peu. Mais aussi la lassitude des guéguerres internes, des querelles d'égo. Il y avait une ambiance de délation qui était assez désagréable. Et puis également des propos qui étaient violents dans les groupes de discussion, des propos transphobes, beaucoup de racisme ordinaire. C'était pénible. Et j'avais plus tellement envie d'être dans cette atmosphère-là. J'ai fini par quitter tous les groupes sur les réseaux sociaux dans lesquels j'étais. J'avais plus envie d'être bombardée de notifications en permanence. J'ai tout quitté et j'ai rien dit à personne. J'ai quitté comme ça, d'un seul coup. Ce que j'ai retiré de cette expérience, c'est ambivalent. Évidemment, ça a changé ma vie dans le sens où ça a développé ma conscience politique sur énormément de plans et pas que sur le plan des violences de genre. Mais ça m'a aussi appris à prendre ma place, à m'affirmer en tant que femme, avoir le courage de mes idées. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi montré que en fait, on est vraiment en sécurité nulle part et que toutes les organisations qui mettent en avant le fait d'être une safe place tombent finalement dans les mêmes travers que les autres. Donc ça m'a appris aussi à peut-être plus compter sur moi-même et moins sur des organisations un peu plus structurées. Après les collages, j'ai pas réussi à avoir d'autres expériences militantes. Ça demandait un investissement conséquent qui est physiquement aussi très fatigant. Donc j'avais pas forcément l'énergie pour ça, et au-delà de ça, j'avais plus tellement envie de me replonger justement dans ce microcosme-là. Et jusqu'à maintenant, en fait, il y a aussi cette peur de pas être légitime, et de pas être la militante parfaite, en fait. Et peur du coup de pas être à ma place dans d'autres collectifs. Je pense, oui, que je recommencerai à militer, mais pas maintenant.
Je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans, je suis avocate et j'habite à Paris. Je viens d'une famille je pense qu'on peut dire globalement assez politisée. Et en tout cas, ça a toujours été une évidence de réfléchir à faire un métier globalement utile. Et il m'est apparu que le droit, c'était quand même un outil intéressant dans le cadre des luttes militantes pour faire avancer un certain nombre de choses. Et du coup, c'est comme ça que je suis allée à la fac de droit. J'ai hésité assez longuement entre le fait de devenir juge et avocate. Et finalement, c'est l'avocature qui a pris le dessus. Tout au long de mes années à l'université, j'ai été engagée dans différentes associations qui luttaient sur la question des droits fondamentaux en prison. Aux alentours de 2015 et 2016, il y a eu beaucoup de personnes exilées qui sont arrivées à Paris. Et c'est une question qui est devenue très visible juste en se promenant dans la rue parce qu'il y avait des campements partout, etc. Forcément, c'est quelque chose qui interpelle énormément. Je me suis dit qu'un jour, à un moment, je prendrais le temps de vraiment me consacrer à ça. Et Calais, ça me semblait être un endroit vraiment très problématique. Ça faisait pas mal de temps quand même que je suivais ce qui se passait là-bas et que ça m'interpellait beaucoup. Et du coup, quand j'ai terminé mes études d'avocate, avant de commencer à travailler, ça me semblait être un moment où je pouvais prendre le temps, si j'avais envie de le faire, pour avoir un engagement un peu conséquent et significatif sur cette question-là. Du coup, pour partir de manière très simple, j'ai rempli, je crois, un formulaire sur Internet d'une des associations qui intervenait là-bas. Et du coup, un beau jour, je suis montée dans un train et c'était parti. C'était le 13 novembre 2017. Moi, je ne savais pas forcément ce que j'avais envie de faire là-bas. Ma préoccupation, c'était de faire quelque chose d'utile. Et j'ai le souvenir quand même de pas mal d'excitation au début, de voilà, ce côté un peu effervescence, rencontre. Et les bénévoles, juste quand ils arrivent, ne vont pas immédiatement se rendre dans les campements. Il y a plus cet investissement, on va dire, sur la base logistique. Et puis, au fur et à mesure, quand on commence à être là depuis, je sais pas, une dizaine de jours, on est embarqué par la cuisine qui dit, tiens, est-ce que ce soir, t'as passé la journée à couper des carottes et des oignons? Est-ce que ce soir, tu veux venir participer à la distribution? Pour le coup, je me souviens très bien de ma première distribution. C'était dans un campement qui était dans la zone industrielle des Dunes, donc juste à côté de l'endroit où il y avait l'ancien bidonville. Et je me souviens d'avoir vraiment été terrifiée. Ce dénuement de se dire, mais en fait, c'est abominable cet endroit, et il y a des gens qui vivent là. Et je me souviens aussi d'avoir été très mal à l'aise. Parce que j'avais une culpabilité immense de me dire, mais en fait, ces gens, ils sont en France et c'est nous qui les faisons vivre comme ça. Donc, première fois où je me suis rendue dans les camps, vraiment assez violente. Et donc, voilà. Passé ces premières semaines, j'ai rejoint une équipe qui s'occupait des personnes vulnérables et tout ce qui est l'aspect médical, donc d'accompagnement des personnes malades à l'hôpital. Et l'autre versant, c'était tout ce qui est suivi des violences policières, donc un travail à la fois de documentation quand on arrivait à être présent au moment où ça se passait, et ensuite de faire un travail derrière de visibilisation de cette situation. Donc, évidemment, c'était des activités qui amenaient à être au contact le plus étroit avec le pire de ce qui peut exister à Calais. Le plus difficile, ça a été vraiment les situations de souffrance psychique énormes de personnes exilées que nous, on devait accompagner. Moi, j'avais une formation d'avocate, prendre en charge des personnes suicidaires, je ne sais pas tellement faire. Et donc, il y avait quand même un moment où on recevait ça en plein visage, ce qui est compliqué. Je pense que c'est aussi la première fois que j'ai été confrontée de manière directe à la folie. C'était la première fois que j'étais amenée à traiter avec des gens dans un état de souffrance tel qu'ils avaient complètement perdu contact avec le réel. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et enfin, il y avait quand même un contexte général qui est que pendant les 8-9 mois où j'ai été là-bas, il y a peut-être une petite dizaine de personnes qui sont mortes à l'occasion de tentatives de passage. Les gens, ils sont tous là pour passer. On sait tous que le fait de passer, ça induit des risques très importants de mourir. Et c'est une violence quand même assez terrible. Je pense que l'angoisse généralisée, notamment par rapport à ce risque de mort, c'était complètement banalisé. C'était pas quelque chose que j'arrivais forcément à verbaliser de cette manière-là à ce moment-là. Et je pense que c'est après, avec beaucoup de travail, que en fait j'ai été capable de me dire ah ouais, ben en fait j'ai passé 10 mois à avoir vraiment peur que les gens meurent ou soient blessés grièvement ou soient victimes de violences policières très importantes. Et donc, en fait, j'ai mis du temps à me dire, OK, j'ai le droit d'avoir souffert, d'avoir été témoin de ça, parce que sur le moment, on se dit, oui, bah, c'est pas à moi que ça arrive. Moi, j'ai un toit au-dessus de la tête et ma vie va bien, donc eux, ils tiennent le coup, donc nous, on va pas se plaindre. Mais j'ai jamais eu le souvenir qu'on verbalise vraiment entre volontaires la souffrance qui était induite par tout ce qu'on voyait. Alors, enfin, je pense qu'il y avait une culture un peu quand même viriliste de... on serre les dents, enfin, je pense qu'il existe dans pas mal de milieux militants, mais on serre les dents, on a des conduites on fait la fête, consommation d'alcool, etc., qui sont un peu des échappatoires par rapport à tout ça. Mais pendant que j'y étais, j'ai déjà entendu des gens dire, un peu sur le ton de la blague, mais en même temps pas tellement, oui, un bon bénévole, c'est quelqu'un qui a déjà fait un burn-out. Et en tout cas, il y avait des gens qui tenaient un discours quand même assez, assez toxique sur le « je travaille tant d'heures par jour » et donc en fait, toi, t'es pas légitime à un moment de venir dire « je suis trop fatiguée et donc je peux pas faire ça, tu m'as mis sur le planning sur telle mission, je peux pas le faire, etc. » Alors que je pense que le moment où on arrivait à verbaliser qu'on était genre vraiment très fatigué et que un peu à bout de force, c'était qu'en fait on était à bout de force depuis vraiment très longtemps. J'ai mis pas mal de temps à comprendre moi ce qui se passait. Que j'étais légitime à aller pas bien parce que j'étais un peu dans une culpabilité de, je sais pas, de riche occidentale où je me disais mais enfin moi il m'est rien arrivé, enfin moi j'ai une vie normale, tout va bien. Est-ce que je suis vraiment légitime à être autant impactée par ça? Personne n'a vraiment tiré de sonnette d'alarme pendant mes 10 mois de présence là-bas sur ce qui nous attendait après et sur je pense que peut-être on m'aurait dit « Ok, là, il va y avoir 6 mois très compliqués. Il faut juste... ça remède un peu de courage et de patience et ça finira par aller mieux. Ça m'aurait quand même aidé. » Pour partir de Calais, déjà, ça a été très compliqué. J'ai repoussé mon départ autant que j'ai pu. Et j'avais quand même conscience que je pouvais pas rester là toute ma vie. Et il y a eu un moment où il y a eu un peu un truc de turnover, à la fois dans les volontaires et dans les personnes exilées, parce que les gens finissent par passer. Et donc, il y a eu un moment où tout mon entourage social a fini par disparaître. Bon, évidemment, j'étais à bout de force. Et par ailleurs, je pense que quelque chose dont je me contentais au début, à la fin, a fini par me frustrer parce qu'en fait, on agit vraiment sur de l'échelle micro et en fait, ça n'agit pas vraiment sur la structure des choses. Et il y a eu un moment où j'étais là, mais en fait, enfin... Moi, j'en ai ras-le-bol d'amener des bols de soupe à des mecs, ou leur distribuer des chaussettes propres ou tous les matins en récupérer qui ont le visage tuméfié et de les amener pour qu'on leur applique de l'arnica aux urgences. Enfin, vraiment, c'est assez frustrant, en fait, de se dire, mais en fait, on peut continuer vraiment des millénaires comme ça. Et donc, je pense que j'étais un peu au bout de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais faire là-bas. Personne n'a ensuite plus jamais pris de mes nouvelles. Je pense que c'est pas une question de méchanceté ou de... Voilà, mais c'est un désintérêt pour ce truc-là. Et il y a un peu, quand t'es là, t'es là. T'es comme une orange, on te presse jusque vraiment tu sois genre vidé. Puis ensuite, tu repars. Et en fait, il y a d'autres gens qui vont arriver, qui vont prendre la suite de toi, même au service d'une cause très noble et très juste. Et je pense que c'est important de... Dans une organisation politique, de commencer par prendre soin de ses bénévoles, de ses militants. Et en fait, si ça doit induire de parfois suspendre des actions parce qu'on estime que le coût bénéfice et le coût, c'est le coût humain et pas rentable, je pense que c'est des réflexions qu'il faut avoir. Je suis rentrée, du coup, à Paris. Il y a des premiers mois qui s'écoulent dont j'ai aucun souvenir parce que vraiment, j'étais anéantie. La première fois que la psychologue que j'ai vue en rentrant a prononcé le terme de dépression, vraiment, je suis tombée d'un immeuble. Évidemment, c'est d'une naïveté totale, mais enfin, vraiment, j'avais pas idée du niveau de souffrance que ça pouvait représenter. J'arrivais pas à me lever. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de de poids complètement monumental. J'étais globalement fonctionnelle à bas régime, mais globalement fonctionnelle, on va dire entre 11 et 16 heures. J'arrivais juste pas du tout à suivre ce que disaient les gens. J'arrivais pas à me concentrer. J'étais vraiment complètement dépassée par ça, avec des trucs de maux de crâne épouvantables. Ça a été vraiment épouvantable. Et enfin, il y a quand même vraiment des moments où je me suis dit qu'arrêter de vivre, ce serait plus simple. Donc voilà. À force de patience, qui n'est pas du tout une qualité que je possède, mais en tout cas, bon, j'avais pas tellement le choix. Et en tout cas, ça a fini par, au fur et à mesure, aller mieux et à me permettre d'envisager de recommencer à bosser. Et j'ai commencé à travailler. Et du coup, à partir du moment où j'ai prêté serment, j'ai commencé à travailler comme avocate. Et je crois que pour le coup, c'est au moment du confinement. J'ai prêté serment en juin 2019. Et donc le confinement, c'est quoi? C'est mars 2020. Et là, j'ai pris conscience en fait qu'il fallait apprendre à dépasser cette culpabilité de ne plus être en train de sauver des vies au quotidien à Calais. Et que en fait, genre, j'avais le droit de faire des choses qui juste me faisaient plaisir et ne changeaient pas la face du monde. J'avais le droit de faire des choses égoïstes, juste dans le sens où enfin, ça me concerne moi, et genre, j'avais le droit de faire des choses qui me rendaient joyeuse, même si ça n'avait pas de portée au-delà de mon petit être. Et ouais, ça a été une réalisation bénéfique, je pense. Du coup, je sais pas si c'est claquer la porte, mais en tout cas, quitter, ou en tout cas mis en grosse pause pas mal de projets militants dans lesquels j'étais investie pour me dire, ok, dans tout ce que je fais, c'est quoi les trucs qui me semblent ou les plus significatifs, ou où je suis le plus pertinent, ou qui, moi, m'apportent le plus de plaisir, et voilà, je le vis à peu près bien.
C'était Fatigué de lutter, un reportage de Timothée de Roglaudre réalisé par Vincent Abouchard, au mixage Audrey Guélil. Merci à Mathilde, à Adèle ainsi qu'à Louis Viter. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Sandrine Chaperon avec Zoé Coupé. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.